Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La Bible le déclare. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Toutes choses alors deviendront nouvelles.
Beaucoup s'interrogent sur la nature de la nouvelle création et de la vie éternelle. Fort heureusement, la Bible nous apporte quelques réponses à ce sujet. Elles se trouvent essentiellement dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre n'est pas toujours facile à comprendre, mais dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques textes qui nous éclaireront sur notre espérance éternelle.
Toutefois, auparavant, Sandra va nous lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, les versets 1 à 6 et 14 à 15. Puis Yann et notre invité Robert parleront de la signification de ce texte.
Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes, chaque mois il produit son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge.
Merci et bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons surtout parlé de l'arbre de la vie, dont l'accès est interdit depuis les événements qui se sont déroulés dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Toutefois, dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, qui est aussi le dernier chapitre de la Bible, un aperçu nous est donné sur la nouvelle création. Dans ce lieu idyllique, le peuple de Dieu goûtera à nouveau aux fruits de l'arbre de la vie et ils vivront éternellement.
Oui, toutes les malédictions prononcées par Dieu suite à la désobéissance d'Adam et d'Ève n'existeront plus dans la nouvelle création. En ce jour terrible, l'humanité a perdu le privilège de vivre dans le paradis. Toutefois, le livre de l'Apocalypse nous donne une vision du paradis retrouvé, avec un Dieu présent au milieu de son peuple.
Robert, il est important de rappeler que beaucoup ne pourront jamais goûter aux fruits de l'arbre de la vie, car ils ne pourront même pas entrer dans le nouveau paradis.
C'est exact, Yann. Le texte que nous avons lu le précise bien. L'humanité entière sera séparée en deux. D'un côté, se tiendront ceux et celles qui pourront entrer dans le paradis pour vivre une communion merveilleuse avec Dieu. Et de l'autre, seront ceux et celles qui doivent rester dehors pour subir à jamais un destin tragique et épouvantable.
Mais qui aura le droit de vivre dans le paradis? Et pourquoi certains ne pourront jamais y entrer? Voilà un enjeu de taille.
Nous lisons dans le texte biblique « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements ». Ainsi, seuls ceux qui auront lavé leurs vêtements auront une place auprès de Dieu dans le paradis.
L'accès au paradis est accordé seulement à ceux qui auront lavé le vêtement. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit certainement là d'une image.
Oui, et c'est une image qui revient souvent dans le livre de l'Apocalypse, ainsi que dans d'autres écrits de l'apôtre Jean. Au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, verset 14, plus de précisions nous sont données, car nous lisons « Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau ». Cette image évoque la grâce de Dieu vécue à travers l'œuvre de Jésus sur la croix pour obtenir la purification de nos péchés. En effet, sur la croix, Jésus est mort. Il a versé son sang pour nous. Tous les écrits des apôtres s'accordent pour affirmer que cette mort brutale a un sens. Jésus s'est livré à la mort pour régler le problème de nos péchés. Il est mort à notre place pour porter nos fautes, pour subir notre châtiment. Il est mort pour nous procurer le pardon de Dieu. Il est mort pour nous réconcilier avec lui et nous ouvrir grand les portes du paradis. Toutefois, tout comme pour laver un habit tout taché, il faut croire en l'action des détergents. Pour être purifié de nos fautes, il faut croire en Jésus, croire en l'efficacité de son sacrifice sur la croix.
Nous devons donc reconnaître notre état de pollution morale et spirituelle et nous tourner vers Jésus, car lui seul peut nous purifier.
C'est exact, Yann. Heureux ceux qui comprennent ces choses, car Dieu leur ouvre en grand les portes du paradis. En ce lieu, ils vivront éternellement avec lui.
Revenons alors à ceux qui n'entreront jamais dans le paradis. Que pouvons-nous en dire?
Lisons un texte biblique qui nous présente une liste de ceux qui risquent de se retrouver dans cette situation-là. Dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette liste, je voudrais vous donner un avertissement, mais aussi un message d'espoir. Commençons par l'avertissement. Si vous vous obstinez à pratiquer le péché, alors vous serez privé des bénédictions de Dieu. Jamais vous n'entrerez dans sa présence. Ce que vous regretterez un jour amèrement, rester dehors est un destin effrayant.
Mais quel peut être le message d'espoir pour de telles personnes?
La bonne nouvelle est qu'à tout moment, nous pouvons changer. Aujourd'hui, il est encore possible de se tourner vers Jésus pour lui demander de nous purifier de nos péchés, quelle qu'en soit la gravité.
Les fautes citées dans le verset lu sont extrêmement graves. Le mensonge, le meurtre, la débauche, la pratique de la magie et de l'idolâtrie. Est-il vraiment possible d'être purifié de telles choses?
Oui, cela est possible en se repentant et en ayant foi en Jésus. La repentance, c'est admettre la gravité de ses fautes, c'est reconnaître ses péchés. La repentance, c'est vouloir aussi cesser de pratiquer le mal, c'est vouloir changer avec l'aide de Dieu. La foi en Jésus, c'est reconnaître que lui seul peut nous purifier de nos péchés. Lui seul peut nous réconcilier avec Dieu, grâce à son œuvre accomplie sur la croix. La foi, c'est se tourner vers Jésus, c'est implorer son pardon, c'est attendre son secours.
Donc lorsqu'une personne s'approche de Dieu avec foi et repentance, elle hérite dès lors de la vie éternelle.
C'est exact, Yann. La vie éternelle est l'héritage qui s'ouvre au peuple de Dieu. Cet héritage dépasse notre imagination. Toutefois, nous pouvons déjà apercevoir quelque chose de sa beauté. Nous pouvons comprendre le bonheur que nous éprouverons dès que nous serons dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les portes du paradis sont ouvertes. Il est encore possible de se tourner vers Jésus et d'entrer dans ce lieu. Alors, nous vous encourageons, chers amis, à mettre votre foi en Jésus. Faites-le avant que les portes du paradis ne se ferment à jamais devant vous.
Merci Robert. Nous terminons ainsi cette série de discussions. Nous vous remercions pour votre participation enrichissante.
Merci Yann. Et au revoir à tous.
À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique. Nous nous attarderons encore sur les écrits de l'apôtre Jean, en parcourant sa première lettre. Mais d'abord, Sandra va nous lire au chapitre 3, les versets 1 et 2. Puis Claude nous fera part de ses réflexions.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste.
Quelle merveilleuse vérité! Celui ou celle qui croit en Jésus est appelé enfant de Dieu. Quelle joie! Quel privilège! Je voudrais me pencher sur ce dernier verset lu celui qui déclare « Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. » Quelle est la signification de ce verset? En quelques mots, ce que nous trouvons en Jésus est formidable, mais il a en réserve pour nous des trésors plus merveilleux encore. Ce verset évoque la résurrection et la vie éternelle. Lors de la première partie de l'émission, nous avons eu un aperçu de la gloire dont nous jouirons dans la présence de Dieu pour l'éternité. L'apôtre Jean se réjouit, car nous sommes enfants de Dieu, puis il ajoute que seulement à la résurrection, nous entrerons dans notre héritage éternel. Illustrons ces paroles ainsi. Un enfant ne peut pas jouir de tous les biens de ses parents. Ce n'est que lorsque ces derniers vont mourir qu'il recevra sa part d'héritage. Que ce soit des terres, une maison ou de l'argent disponible. Vous me direz alors, « Mais Dieu notre Père ne meurt jamais. Comment obtiendrons-nous notre héritage éternel ?» En fait, notre héritage éternel a été acquis grâce à la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Notre héritage est certain. Il est comme inscrit dans un testament signé avec le sang de Jésus. Nous posséderons notre héritage, celui que Dieu nous destine, non à l'occasion du décès du Dieu éternel, mais en passant nous-mêmes de la mort à la résurrection. Imaginez que vous vivez dans une petite maison composée de 2 ou 3 pièces seulement, sans électricité ni eau courante. Puis un jour, vous recevez une visite inattendue. Votre oncle, riche, dont vous ignorez l'existence, vient de mourir et il vous a laissé dans son testament l'un de ses logements. Il s'agit d'une maison immense et luxueuse, située au cœur d'un jardin idyllique. Il vous est difficile d'imaginer votre nouvelle vie dans cette maison, tant le changement est grand. Mais quel bonheur d'imaginer un instant l'avenir merveilleux qui nous attend. Il en est de même avec la vie éternelle. Elle dépasse notre entendement. La Bible, particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, nous donne des petits aperçus de ce que sera la nouvelle création. Mais nous sommes loin de pouvoir nous imaginer comment tout sera exactement. Toutefois, nous en sommes certains, un héritage nous attend. Car déjà, nous sommes enfants de Dieu. Quelle joie, quelle espérance! Elle nous aide à persévérer et à tenir ferme malgré la détresse, malgré les épreuves qui s'abattent sur nous.
Merci Claude et merci chers amis pour votre écoute. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.